Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Vous pouvez également nous réécouter pour la rediffusion de cette émission le mardi matin à 10h si vous êtes, j'allais dire matinaux, mais non, enfin à 10h on travaille quoi. On ne se lève pas, enfin, sauf peut-être certains, mais non. Carole est avec moi.
Bonjour,
aujourd'hui pour cette émission.
Jean-Noël.
Salut Carole. Comment vas-tu depuis la semaine dernière de cette émission, chaotique du 9 février,
oui. Mais
on a eu toute la semaine quand même pour se remettre de nos émotions et d'essayer de pouvoir gérer d'un point de vue technique, je dirais professionnellement, cette émission. Et là, je n'ai aucun doute sur la qualité de l'émission que nous allons vous proposer. Ne me regarde pas avec des yeux comme ça.
Je
sens le doute de ton regard, ce qui n'est pas du tout agréable. Nous sommes donc le 16 février 2019 et vous écoutez donc Biotine sur l'antenne de Graphite. Et toutes les semaines dans cette émission, on commence toujours par l'éphéméride pour savoir ce qu'il s'est passé le 16 février. Ce qui est intéressant, ça permet un petit peu de recontextualiser certaines découvertes. Par exemple, Lavoisier qui organise une expérience qu'il vient de mettre au point, la décomposition de l'eau en oxygène et en hydrogène. C'est à Paris que ça se passe et c'est un 16 février 1785. Quand même, ça remonte à loin, c'était avant la Révolution française. Le 16 février 1932, l'industriel Jean Mantelet dépose le brevet de quoi ?
Bonne question.
Du presse-purée.
Ah !
En 1932, on a l'impression que c'était plus ancien,
oui,
en fait.
Oui, c'est ce que j'aurais dit.
Eh bien non. 5 ans après, en 1937, il y a un brevet d'invention pour le nylon qui est accordé au docteur Wallace Carothers. Selon une hypothèse, le mot nylon vient des initiales du prénom des épouses des 5 chercheurs ayant participé à la mise au point de cette matière.
Que c'est beau.
Et bien, tout va, non,
quel
moment,
hommage.
Mais oui, je trouve, finalement, des fois on cherche des noms compliqués, et bien là on a pris des initiales, c'était en 1937. 1948, un 16 février toujours, une innovation au New York Times, le journal transmet une édition via les ondes électromagnétiques pour une impression à distance. C'est quand même assez bluffant, c'est en 48. Aujourd'hui, journée internationale du patrimoine canadien. Eh bien écoute...
Il en faut une.
Eh bien... C'est vrai que dit comme ça. Mais oui, mais voilà, pour le patrimoine canadien, le 16 février.
C'est important de le citer. Non, mais j'ai beaucoup d'amis canadiens, donc...
Eh bien, écoute, salue-les, parce qu'ils sont en train de t'écouter grâce à graphite.net. C'est leur journée internationale, de leur patrimoine. Naissance le 16 février 1698. Alors ça, ça remonte loin. Il est né au Croisic, qui s'appelle Pierre Bouguer. C'est un mathématicien, physicien, géodésiste et hydrographe français. En fait, son père, Jean Bouguer, l'un des meilleurs hydrographes de son époque, il est professeur au Croisic et il est auteur d'un traité de navigation. Et en 1713, son fils Pierre est engagé pour succéder à son père. Il obtient en 1727 un prix de l'Académie des sciences pour sa présentation sur la meilleure manière de former et distribuer les mâts des bateaux. Et il y a également 2 autres prix qu'il a eus sur la meilleure méthode pour observer l'altitude des étoiles en mer et la meilleure méthode pour observer la variation de la boussole en mer, tenant compte de certaines anomalies de la pesanteur. Nous sommes au début du 18e siècle, c'est quand même assez fascinant. Il est né un 16 février 1698, il s'appelle Pierre Bouguer. Et dans cet éphéméride, il y a également la célébration, si on peut dire comme ça, de décès le 16 février 1754. Donc là aussi, on est loin. C'est le médecin britannique Richard Mead. Il est le 7e enfant d'un ministre de culte indépendant. Il naît à Londres, il étudie pendant 3 ans aux Pays-Bas et ayant décidé de poursuivre en médecine, il va se rendre notamment à Leyde où il va suivre des cours de botanique. Il aura vraiment travaillé sur différentes choses et puis ensuite il obtient un diplôme en philosophie et en médecine à l'université de Padoue et il a publié en 1702 un ouvrage qui est intéressant par rapport à l'émission que nous avons faite la semaine dernière, les conséquences mécaniques des poisons. En fait, il explique que les venins doivent leur efficacité au fait qu'ils sont injectés après perforation de la peau et il conçoit que les venins sont formés de particules solides, lesquelles provoquent mécaniquement un résultat fatal dans le sang. Nous sommes en 1702 et en 1720, il y a une épidémie de peste qui ravage Marseille. Le gouvernement britannique envisage de mettre en vigueur une autre autre loi sur la quarantaine, mais avant de se décider, il demande justement à Richard Mead et il répond en publiant la même année son livre « Une brève dissertation sur la contagion pestilentielle et la méthode pour la prévenir ». L'ouvrage qui a été critiqué dès sa parution eh bien fera néanmoins progresser les connaissances sur les maladies transmissibles. En 1721, il supervise l'inoculation d'une substance à 7 prisonniers. Ils seront tous guéris. Cette expérience va confirmer justement l'utilité de l'inoculation. Il va poursuivre sa carrière médicale jusqu'à sa mort, tout en rédigeant des ouvrages et en prononçant des conférences. Il meurt paisiblement le 16 février 1754 dans sa maison de Bloomsbury. Il s'appelait Richard Mead et voilà, il a vraiment des avancées intéressantes en termes de connaissances sur les venins et sur l'inoculation, la vaccination en clair. Ça, c'était l'éphéméride du 16 février. Et comme c'est l'année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev,
tous les ans,
à chaque émission, nous allons remplir une case de ce tableau. Et aujourd'hui, je vous propose de parler du potassium. Je ne sais pas pourquoi.
Ah, très connu.
Oui, à la rigueur, très connu. C'est un métal qui n'est jamais utilisé en tant que tel, mais qu'on utilise via ses sels. C'est-à-dire, il y a le nitrate de potassium qui se trouve dans la poudre à canon. Il y a le carbonate de potassium qui se trouve dans le savon. Il y a l'hydrogénosulfite de potassium qui empêche le développement de micro-organismes comme les levures ou les bactéries. Et donc, il va essayer d'éviter diverses fermentations qui ne seraient pas désirables. Sous forme de chlorure de potassium, il est utilisé à grande échelle comme engrais. Le potassium est comme beaucoup de minéraux essentiels à la vie puisqu'il joue un rôle important dans le système nerveux. Tous ceux qui ont fait des cours de physiologie savent très bien l'importance du potassium. Les bananes sont les aliments qui en contiennent le plus.
Ah.
Je ne savais pas. On apprend tous les jours.
Oui.
Il y a aussi la tête d'allumette qui est constituée de chlorate de potassium.
C'est plus difficile à manger.
Et qui va entretenir la flamme, j'adore cette phrase, en apportant de l'oxygène qui est bien sûr essentiel à combustion. Il va également se combiner avec le sulfure d'antimoine pour que la flamme ne s'éteigne pas tout de suite. Le potassium, c'est mou, c'est argenté. Il a été isolé par le chimiste anglais Humphry Davy, c'est en 1807. En fait, son nom vient de là. Potasse, bien sûr, qui littéralement veut dire un pot de cendre, et qui était donc une solution de cendre de végétaux mélangés à l'eau. Et son numéro atomique est le 19 dans le tableau, si vous voulez le compléter. Le symbole du potassium ?
K.
K, pourquoi ? Parce qu'on aurait dit P ou PO. Et K, parce que ça vient de son autre nom qui est le kalium, qui était donné par le chimiste suédois Berzelius en référence à la plante Kali, qui est la salicorne et qui est riche en potassium. Donc la salicorne se disait Kali, Kali avec un K. On a donc donné le nom de kalium, d'où le K de potassium. Et c'est justement ce Berzelius qui va inventer le système de symboles et qui va donc garder le K pour le potassium. Voilà, c'est vrai que le potassium, on a l'impression d'en entendre toujours parler. Et là, grâce à ce tableau, et qu'on ne connaît pas si bien, alors qu'évidemment, il y a des applications totalement indispensables. C'était l'éphéméride et c'était le tableau périodique des éléments. Comme toutes les semaines dans cette émission, on démarre par cela, il n'y a pas de raison. À toi, Carole, on va, avec toi, toujours partir loin, très loin.
Là, on va partir de nouveau dans l'espace, mais sur quelque chose d'assez fondamental comme notion, puisqu'on va aborder la problématique de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup à l'heure actuelle plein de domaines. Et cette fois-ci, en fait, l'intelligence artificielle qui pourrait nous en apprendre sur la fusion des trous noirs. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, près de 3 ans après la découverte de la première onde gravitationnelle, donc en septembre 2015, ce qui est quand même relativement récent, hein, mais ça fait déjà 3 ans, une équipe du Centre d'astrophysique théorique de l'Institut de technologie de Californie vient de publier un article qui dévoile donc dans ses moindres détails les collisions de trous noirs. Alors, cette étude, elle a été publiée dans le magazine Physical Review Letters du 11 janvier. Et elle présente en fait la simulation la plus précise à ce jour pour décrire la fusion de ces astres compacts. Alors, les chercheurs ont mis à nu l'événement le plus cataclysmique qui puisse survenir dans le cosmos, bien sûr, la fusion de 2 trous noirs. 2 astres extrêmement compacts à l'origine de l'émission d'une onde gravitationnelle. Théoriquement prédite par Einstein en 1916, il a fallu 1 siècle aux physiciens pour inventer les détecteurs complexes et extrêmement sensibles comme les interféromètres susceptibles de détecter ces infimes vibrations de l'espace-temps que sont les ondes gravitationnelles. Oui, parce que finalement, c'est quelque chose qui se poursuit dans la logique, c'est-à-dire que tout d'abord, il a fallu découvrir exactement ce qu'étaient les ondes gravitationnelles, réussir à les détecter. même si elles avaient été on pouvait les prédire à l'avance. Et pour cette nouvelle étude, en fait, les chercheurs ont utilisé un algorithme justement d'intelligence artificielle fondé sur l'apprentissage machine, ou machine learning en anglais, expression que vous entendrez le plus souvent. L'apprentissage s'est fait à partir de 900 simulations de fusion de deux trous noirs du programme Simulating Extreme Space Times, calculé dans le superordinateur Wheeler de Caltech, donc ce fameux laboratoire. L'équipe parvient alors à prédire non seulement les caractéristiques du trou noir final, comme sa masse, sa vitesse de rotation, mais aussi la forme de l'onde gravitationnelle que cette collision devrait produire. L'utilisation de l'intelligence artificielle, elle se justifie car, lors des dernières secondes avant la fusion, lorsque les deux trous noirs décrivent des spirales de plus en plus rapprochées, le calcul exact de la forme de l'onde émise est difficile à effectuer avec les méthodes traditionnelles. Donc la précision de leur simulation, ce sera un outil précieux pour la future génération de détecteurs, puisque ceux-ci pourront du coup surprendre de petites variations de la forme de l'onde et éventuellement traquer des effets infimes justement de cette nouvelle dimension de la physique qui s'ouvre depuis ces nouvelles découvertes.
Ce qui est intéressant, Carole, c'est que pour préparer cette émission, chacun a regardé ses articles de son côté. Mmh. Et quand on a fait le point juste avant l'émission, on s'est rendu compte que les trous noirs sont un peu l'actualité également. Donc toi, tu le vois sous l'angle de cette intelligence artificielle qui pourrait permettre justement de pouvoir les détecter, enfin, en tout cas les prédire et les détecter. Enfin, oui, les détecter
et améliorer déjà les systèmes de détection, peut-être en allant un peu moins loin, mais en tout cas, oui, nous en apprendre beaucoup sur leurs caractéristiques.
Bien sûr. Et il y a une autre question qui commence à venir, où on se demande s'il n'y aurait pas un second trou noir géant qui pourrait être au cœur de la Voie lactée.
Et donc là, on est dans le concret, on est peut-être dans, la découverte d'un nouveau...
on est dans la fin du monde, ça y est, c'est fini. avec cette question, bien sûr, est-ce qu'un trou noir pourrait entrer en collision avec la Terre ? C'est ça qui est un petit peu la question qui fascine et qui fait peur. Donc, comme tu l'as dit, donc le trou noir, cette région de l'espace dont rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Donc, il est naturel de se demander si ce type d'objet pourrait être une menace pour la Terre. Alors, déjà dans les années 1960, il y a eu quelques chercheurs qui avancent que la majorité des grandes galaxies doivent héberger en leur centre des trous noirs qu'on appelle supermassifs. C'est une thèse majoritairement acceptée depuis au moins 20 ans, même si une preuve définitive de la présence d'objets ayant bien un horizon des événements conforme aux prédictions de la théorie de la relativité générale, comme tu l'as dit, manque encore. C'est pourquoi on attend avec impatience les résultats cruciaux des observations, notamment du télescope Event Horizon concernant justement de cette question assez épineuse qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu des déclarations aussi il y a quelques temps avant sa mort de Stephen Hawking. Et on devrait en savoir plus cette année. Toujours est-il que nous savons que ces trous noirs contiennent au moins l'équivalent d'un million de masses solaires et parfois plusieurs milliards. C'est assez gigantesque. On ne se rend même pas compte de quoi nous parlons. Toutefois, on ne sait pas encore vraiment comment ces monstres se sont formés. Et une partie du scénario le plus souvent envisagé, l'effet se développait à partir de fusion, comme tu l'as dit, de trous noirs de masse plus faible, dite intermédiaire, allant de quelques milliers à quelques centaines de milliers de masses solaires, ce qui est quand même déjà pas mal. Ces objets, apparaîtraient pour des raisons encore inconnues au cœur des premières galaxies naines où il y a plus de 10 milliards d'années, donc c'était pas hier. Ce sont ensuite les fusions entre les galaxies naines qui vont donner des grandes galaxies, puis ces grandes galaxies qui vont ensuite pouvoir un petit peu s'agréger ensemble. Et il n'est pas douteux que des fusions de galaxies se produisent, mais on peine à débusquer des trous noirs de masse intermédiaire. Alors, on connaît quand même quelques exemples. Et il y a eu un projet pour la détection des ondes gravitationnelles émises lors de la fusion de trous noirs qui devrait nous aider à l'horizon des années 2030 à faire toute la lumière sur ces populations de trous noirs et leur fusion accompagnant la croissance des galaxies. Comme tu l'as dit, théorie, soutenue comme tu l'as dit par des simulations numériques, nous dit même que l'on devrait trouver plusieurs trous noirs de masse intermédiaire dans la Voie lactée ou autour. Et de ce fait, il y a quelques années, on a soupçonné la présence d'un tel trou noir pas très loin du centre de la Voie lactée en raison du comportement d'une espèce de nuage moléculaire qu'on avait pu observer à l'aide du radiotélescope européen ALMA. Et L'existence de ce trou noir, ça a été depuis remise en question, mais il y a quand même des chercheurs qui ont aussitôt annoncé qu'ils avaient débusqué, toujours grâce aux observations de ce radiotélescope ALMA, un deuxième candidat au titre de Miss France, non au titre de trou noir, c'est pour ça si tu suivais.
Oui, mais complètement.
Un deuxième candidat au titre donc, de trou noir de masse intermédiaire, non loin du cœur de la Voie lactée, donc il y aurait un second, ça reste assez encore hypothétique évidemment, un second trou noir géant qui serait en train d'errer comme ça au cœur de la Voie lactée. Et ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on se dit d'ici 10 ans, on le saura.
Oui, pareil, une échelle de temps très courte.
Et c'est une échelle de temps très courte par rapport à l'histoire de j'allais dire, pas de l'humanité, pardon, de l'espace, de l'univers.
De ces galaxies, de l'univers, oui. Là, et on est là, sur une échelle de temps, encore une fois.
Minime, totalement minime, et qu'on va pouvoir peut-être dans cette émission bientôt vous révéler l'existence de ce deuxième trou noir.
Eh bien, très bien.
Est-ce qu'on reste dans l'espace?
Voilà, tout à fait. Moi, j'aimerais bien rester dans l'espace. Hein. Mais on tu est as bien raison. Dans l'espace. Bon, mais... les trous noirs, c'est quand même... je ne sais pas si on est bien à proximité d'un trou noir.
Ça dépend lesquels, mais à mon avis, non.
Non. Mais là, on va parler cette fois-ci du coup de planètes et plus particulièrement de Saturne. Et bien sûr, quand on parle de Saturne, on parle de ses anneaux. Puisqu'on se rend compte que finalement, les anneaux de Saturne seraient assez jeunes, justement, pareil, dans cette échelle de temps, et seraient apparus très récemment. Alors, c'est quoi très récemment, hein, pour vous donner quand même un ordre d'idée?
Dimanche
c'est, pas tout à fait, un petit peu avant. Il y a 10 à 100 millions d'années. C'est ce qu'estiment les chercheurs dans une étude parue donc il n'y a pas longtemps, hein, mi-janvier, dans la revue Science, sur la base justement des ultimes observations de la sonde Cassini. Et oui, cette sonde qui aura permis vraiment de...
Mais Cassini, oui. on a assisté à la fin de la mission Cassini il y a quelques mois, mais on a encore plein d'informations qu'on va pouvoir traiter.
C'est ça, tout à fait. Donc à mon avis, on risque d'apprendre encore des choses. Alors la période que je viens de citer, hein, donc entre 10 et 100 millions d'années en arrière, elle correspond à peu près en fait à l'époque des dinosaures sur Terre qui sont disparus il y a 65 millions d'années. On rappelle que Saturne, qui est la sixième planète en partant du Soleil, elle s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années au début du système solaire et qu'elle a donc vécu pendant la quasi-totalité de son existence sans ses anneaux. Parce qu'en fait, pareil, si on ramène ça au temps, donc ça paraît assez fou. Nous, on la connaît comme ça. Oui, on a l'impression que c'est depuis toujours,
oui,
mais non.
On a l'impression que c'est depuis toujours.
Oui. Alors, les planétologues, en fait, ils avaient de nombreux indices de l'âge relativement jeune des anneaux ils font l'hypothèse que ces anneaux ont été formés peut-être par des collisions de lune de Saturne ou bien par l'éclatement d'une comète qui se serait rapprochée trop près de la planète. Mais leur âge exact, eh bien, il restait l'une des grandes énigmes du système solaire depuis tout ce temps. Et en fait, donc, la sonde américaine européenne Cassini, lancée en 1997 et qui donc nous a dit au revoir en 2017, eh bien, elle a récupéré des données qui justement ont permis de faire le calcul de cet âge. À la fin de sa mission, Cassini a effectué en fait 22 orbites passant entre Saturne et ses anneaux et s'en rapprochant comme jamais elle n'avait fait auparavant, avant d'aller donc se désintégrer délibérément dans l'atmosphère de la planète puisqu'elle n'avait plus de carburant. Ces instruments ont permis aux scientifiques de la mission de mesurer les forces gravitationnelles exercées respectivement par les anneaux et par la planète pendant ces plongeons et d'en inférer la masse des anneaux. Cette masse, combinée à d'autres données, a ensuite conduit à une estimation de l'âge. Alors, l'auteur principal de l'étude, Luciano Less, de l'université italienne de la Sapienza de Rome, nous explique « C'est seulement en se rapprochant d'aussi près de Saturne, lors des orbites finales de Cassini, que nous avons été capables de récolter des données à l'origine de ces découvertes. » Avec ses travaux, Cassini remplit le but fondamental de sa mission, qui était donc non seulement de déterminer la masse des anneaux, mais aussi utiliser ces informations pour affiner les modèles et déterminer l'âge des anneaux. Comme nous l'explique aussi la NASA, plus la masse est faible, plus les anneaux sont jeunes. Car en vieillissant, les anneaux, bien, ils attirent des débris et c'est là justement qu'on observe un alourdissement. Donc, les anneaux sont constitués à 99% de glace. L'étude ne répond pas à la question de leur origine, mais en tout cas, elle renforce les théories d'une comète ou d'une collision de lune glacée. Et elle nous donne cette fourchette, je le rappelle, de 10 à 100 millions d'années pour l'âge des anneaux de Saturne.
Oui, qui n'est pas si vieux que ça à l'échelle, là encore, de l'univers, effectivement. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était Saturne a toujours été avec ses anneaux.
Oui, elle à notre échelle, bien
moment.
Sûr.
Ouais, ouais. À un moment, elle était
mais nue. Quasiment tout le temps, en fait.
Elle devait être ridicule, en fait.
Oui. Et à un moment, heureusement, je ne sais pas, Karl Lagerfeld est passé par là et voilà, a fait quelque chose.
Ben oui, merci, Karl. On va rester dans l'espace, finalement, parce qu'il y a un autre article qui est assez intéressant, qui concerne la santé des astronautes. La mortalité des astronautes par maladie cardiovasculaire ou par cancer n'est pas plus élevée, malgré quand même une exposition un peu particulière aux radiations. C'est ce qu'annoncent des chercheurs américains Robert Reynolds et Stephen Day. Leur étude parue dans la revue Occupational and Environmental Medicine, qui met en parallèle la santé des astronautes de la NASA et des sportifs professionnels, et cela depuis les débuts de la conquête spatiale à nos jours. C'est ça qui est intéressant. Ils ont fait une étude quand même sur à peu près 50 ans, 60 ans d'histoire. Mmh. Le métier d'astronaute, comme celui d'athlète de haut niveau, n'est pas à la portée de n'importe qui, bien évidemment. Seule une poignée de 12 candidats étaient retenus par la NASA pour sa promotion 2017, alors qu'il y avait à peu près 18 300 personnes qui s'étaient présentées. Donc 18 312 au final. Cette sélection minutieuse ne garde que les plus aptes physiquement et mentalement, ce qui signifie que les astronautes forment une minorité de personnes en meilleure santé que la population générale, d'où la nécessité pour les chercheurs de trouver un groupe d'individus un petit peu d'égal niveau de bonne santé, mais qui n'ont jamais eu à travailler dans l'espace pour servir de témoins. Et donc les chercheurs ont comparé la mortalité des astronautes à celle des joueurs de la NBA, de la Ligue majeure de baseball, et dans une période donc assez large, on est parti de 1960 jusqu'à mai dernier 2018. Ces athlètes ressemblent aux astronautes sur de nombreux aspects importants, sauf bien sûr qu'ils ne sont jamais allés dans l'espace. C'est ce qu'indique Robert Reynolds à l'agence Reuters. Il reflète donc l'état de santé des astronautes si ces derniers occupaient un emploi comparable, mais en étant restés toute leur vie sur Terre. Donc c'est ça intéressant, le groupe témoin est quand même assez bien trouvé. Ce rapprochement permet d'éviter ce qu'on appelle en statistique un biais lié aux travailleurs sains. Bref, les risques de décès sont moins élevés chez les astronautes par le simple fait qu'ils soient aptes à devenir astronautes et à le rester. C'est ce que notent donc les chercheurs dans l'article. Les chercheurs ont constaté que les astronautes, comme les sportifs professionnels, affichent une mortalité inférieure à la population globale. On note cependant quelques différences quant aux causes de décès, les astronautes étant plus souvent victimes de facteurs extérieurs, comme des accidents, et ayant moins de chances de succomber à des maladies cardiovasculaires et autres causes naturelles mais prématurées. Ces résultats indiquent que l'exposition aux radiations n'a, dans l'ensemble, pas entraîné de décès prématurés liés à des maladies cardiaques ou des cancers chez les astronautes. Nous pensons que la santé cardiovasculaire est le facteur le plus important dans leur longévité, c'est ce que déclare donc ce chercheur Robert Reynolds, qui souligne que les données limitées ne permettent pas d'être totalement catégoriques. L'étude ne porte en effet que sur les astronautes de la NASA de sexe masculin, soit moins de 300 personnes. Alors que les agences spatiales gouvernementales ou privées rêvent du premier homme sur Mars dès les années 2030, cette étude paraît donc de bon augure, mais attention, pas de conclusion quand même trop hâtive. Elle ne signifie pas, cette étude, que le voyage spatial est sans danger, car jusqu'à maintenant, les astronautes des missions Apollo vers la Lune et l'équipage de la Station spatiale internationale ont été soumis à des doses de radiation faibles, ok, et la dose sera 50 à 100 fois plus élevée pour une mission sur Mars. Conclusion donc de cet article, la santé des astronautes ne semble pas affectée par les radiations dans le cadre donc des missions sur la Lune, mais ça n'est pas une généralité et peut-être que pour des missions plus longues et plus lointaines, les résultats seront différents. Ça nous donne quand même envie de partir sur Mars, même si moi, si personnellement, je suis déjà malade dans un manège.
Oui, ce que j'allais dire.
À la
vu ce qu'il faut faire avant, je ne suis pas certaine.
Mais ben voilà, mais que veux-tu ? Je te propose d'écouter un titre, comme ça,
plaisir.
Ça va nous faire une petite pause et ensuite on va plutôt nous intéresser à l'environnement.
Un peu d'écologie, d'environnement, oui. Et donc un peu de.
Un peu de douceur dans ce monde de brut.
Raconte qu'il vit seul depuis si longtemps, qu'il engueule ses glaïeuls comme si c'était ses enfants. On raconte que le soir, il met deux couverts et prépare le dîner à son pote imaginaire, comme un ours bipolaire, un ermite en colère. en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans ses jours amers, son regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans sa chair. Raconte qu'elle vit seule depuis si longtemps, qu'elle console son aïeul comme s'il était vivant. Toutes ses âmes sœurs se sont évanouies au fin fond du néant, de son âme envahie par des ours bipolaires, des ermites en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans ses jours amers, son regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans sa chair. Ours bipolaire, ermite en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans ses jours amers, son regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans sa chair. N'étaient pas les seuls à me seul ici-bas, mais les solitaires ne se rencontrent pas. Ils n'étaient pas les seuls à faire de leur lit une base arrière à la mélancolie, comme ces ours bipolaires, ces ermites en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans tes jours amers, ton regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans ta chair. Ours bipolaire, ermite en colère, en apesanteur entre les deux hémisphères. Dans tes jours amers, ton regard se perd entre l'eau et le feu qui clash dans ta chair. Ours bipolaire.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était Alexis HK qui nous chantait comme un ours. C'était doux, son ours bipolaire.
Très agréable.
En fait. C'était très agréable et c'était sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. On fait un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique, technique, médicale. Et là, on va quand même être sérieux et parler un petit peu d'environnement, d'écologie,
tout
de développement
fait.
Durable.
Oui, et on commence par se préoccuper un peu du climat, puisque une gigantesque cavité se développant au fond du glacier Thwaites dans l'Antarctique a été découverte par la NASA. Et grosse inquiétude, puisqu'en fait, si celui-ci continue de grandir, eh bien, le niveau des eaux risque d'augmenter dangereusement, déjà qu'on sait ce qu'il en est et que ce niveau augmente. Donc, le glacier de Thwaites est l'un des plus vastes d'Antarctique occidentale et c'est aussi l'un des plus étudiés par les scientifiques qui redoutent son effondrement proche au cours de ce siècle. Les dernières données le concernant, évidemment, n'incitent pas à l'optimisme. Pour donner un ordre d'idée, en fait, ce glacier, il est grand comme la Floride, et il est surveillé depuis le ciel par les satellites d'observation braqués sur la Terre. Depuis 2010, dans le cadre de l'opération Ice Bridge, la NASA étudie aussi l'Antarctique et le Groenland avec un radar embarqué dans un avion. Et c'est justement ce dernier radar qui a repéré en fait sous ce glacier une immense cavité longue de 10 km sur 4 de large, hein, donc 10 km de long, 4 km de large et 350 mètres de hauteur. Elle se forme en fait entre le substrat rocheux sur lequel repose le glacier et les premières glaces au-dessus. Dans cette cavité, l'eau de mer pénètre et grignote en fait la glace, alors à un rythme effréné, puisque selon une nouvelle étude justement qui a été publiée dans la revue Science Advances, qui est basée sur les résultats de la campagne justement Ice Bridge, eh bien c'est l'équivalent, tenez-vous bien, de 14 milliards de tonnes de glace qui a disparu en l'espace de 3 ans. 14 milliards de tonnes. Oui, oui, oui. Et visiblement, plus le trou s'agrandit, plus l'eau est en contact avec une surface importante de glace susceptible de fondre. Donc en fait, c'est un vrai cercle vicieux. Les estimations actuelles, elles évaluent déjà à 4% la participation du Thwaites à l'élévation du niveau mondial des eaux. Moi, je trouve que 4%, c'est énorme hein, pour un seul glacier, même s'il est très important. Et il contient suffisamment en fait, de glace pour soulever les mers d'un peu plus de 65 cm. 65 cm. C'est énorme et c'est là en fait d'où lui vient son surnom puisqu'on le nomme le glacier de la mort. Il faut imaginer que s'il y a une élévation de une élévation
oui.
de 65 cm, il va y avoir quand même des zones du globe qui seront sous l'eau et qui ne le sont pas actuellement. Donc je trouve que le nom est quand même bien trouvé. De plus, il faut savoir qu'il joue un rôle protecteur pour les autres glaciers qui l'entourent, ce qui fait qu'en fait on peut imaginer que si l'ensemble de la région elle était affectée par une fonte importante des glaces, les océans s'élèveraient alors à peu près de 2,4 m.
Ouh là là.
2,40 mètres. Et évidemment, ce serait catastrophique, on l'imagine. Donc, afin de mieux comprendre l'évolution du glacier, le Royaume-Uni et les États-Unis ont lancé en avril 2018 un vaste programme scientifique de surveillance et d'études in situ. Une centaine de scientifiques armés de foreuses à jet d'eau pouvant creuser donc jusqu'à 1500 mètres de profondeur et épaulés aussi de sous-marins autonomes vont le scruter sous tous les angles dans les prochaines années. Donc, je pense que c'est un sujet dont on reparlera aussi dans Biotine.
Bien sûr. Alors, il y a aussi cet article qui apporte un autre angle. C'est celui du site Futura Science qui parle des océans qui subissent aujourd'hui, bien sûr, de plein fouet les effets du réchauffement climatique. La plus grande partie d'entre eux, du moins, parce que, à en croire des chercheurs américains, eh bien, les profondeurs de l'océan Pacifique, hein, ces profondeurs, elles connaissent une période de refroidissement. Ça serait un reliquat du petit âge glaciaire qu'ont connu l'Europe et l'Amérique du Nord. C'était du début du XIVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Nous avons établi un modèle de la façon dont les profondeurs des océans réagissent aux changements climatiques de surface. Et nous avons été surpris par le fait que celui-ci suggère que les endroits les plus isolés du réchauffement climatique moderne pourraient encore subir les conséquences de ce petit âge glaciaire. C'est ce qu'explique Peter Rebers, qui est donc chercheur à Harvard aux États-Unis. Pour vérifier la solidité de leur modèle, les chercheurs l'ont ensuite comparé à des relevés de température. Les premiers ont été réalisés entre 1872 et 1876 lors d'une expédition consacrée à l'exploration des fonds marins et qui ont permis d'enregistrer plus de 5000 mesures à l'époque. Les seconds relevés de température datent des années 1990, donc plus d'un siècle après, et d'une expérience mondiale sur la circulation océanique. Et donc après quelques corrections apportées aux mesures historiques, les chercheurs ont pu confirmer un réchauffement de la majeure partie des océans et un refroidissement dans le Pacifique à une profondeur comprise à environ 2 km de profondeur, une poche d'eau plus froide. Alors, c'est relatif, hein, de 0,02 à 0,08 degrés, hein, donc c'est quand même pas énorme, mais cette petite poche d'eau qui persisterait depuis plus de 600 ans. Dans l'Atlantique, hein, là on était dans le Pacifique, là dans l'Atlantique, le Gulf Stream qui transporte la chaleur de l'atmosphère vers les profondeurs des océans a depuis longtemps fait disparaître toute trace d'une eau un petit peu plus refroidie par le petit âge glaciaire, mais donc dans le Pacifique, la circulation est plus lente et les eaux de surface peuvent mettre entre 8 et 14 siècles à atteindre les profondeurs, faisant dans le cas présent baisser les températures des profondeurs. Ces résultats remettent donc en cause les modèles portant sur le réchauffement climatique actuel, parce que ça repose généralement sur un océan en équilibre au début de la révolution industrielle. Mais la présence de cette poche d'eau froide a probablement permis de tempérer les effets du réchauffement climatique ces dernières années. Alors, que se passera-t-il lorsque cette eau finira par se réchauffer ? Personne ne semble réellement en mesure de le dire, mais les chercheurs estiment que l'impact devrait rester minime compte tenu du poids gigantesque des activités humaines qui font aujourd'hui peser sur le climat global. Donc il y a une partie de l'océan Pacifique qui est en train de se refroidir, de façon totalement relative bien évidemment, entendons-nous bien. Mais en tout cas, voilà, il y a encore des petites zones qui résistent. Mais c'est emporté par cette espèce d'ouragan, comme le chantait Stéphanie à l'époque, qui est en train de tout balayer sur l'ensemble des océans. Comme là, on restait au niveau des océans et on reste quand même quelque part très catastrophé par ce qui nous attend.
Oui.
J'aime bien quand on plombe l'ambiance comme ça.
Mais c'était prévu là, je crois. On avait.
Oui, on l'avait
a dit
un petit
climat,
peu prévu. Mais
donc déjà, c'était un peu prévu.
Il y a un moment où il faut aborder. On peut pas toujours aborder des sujets légers, mais ça, on peut parfois aborder aussi des sujets concrets. Ce qui est en train de se passer en ce moment est prédit. On le sait, on l'a assez informé. Ce qui est important, c'est l'accélération peut-être quelque part.
Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des prises de conscience citoyennes, parce qu'il n'y a pas très longtemps, donc au mois de janvier, il y a eu des marches pour le climat. Enfin, j'ai l'impression que ça a repris. Maintenant, on a l'impression que c'est plus les gouvernements et certaines organisations internationales qui ne prennent pas la mesure des actions qu'il faudrait mener pour sauvegarder la planète. Et ça passe notamment, en effet, par les océans.
Non, parce qu'on a une politique très court-termiste, d'une façon générale. Et quand je dis politique, dans le grand mot. Et puis là, on est bien dans des générations futures qui vont avoir un impact. Tu évoquais tout à l'heure, c'est pas du catastrophisme, c'est du réalisme, en fait. C'est la nuance,
elle est là. C'est des mesures.
C'est des mesures.
Des observations, oui.
C'est des observations, c'est des simulations qui sont mises en place pour essayer de prédire l'avenir. Et quel que soit le degré de finesse de ces simulations, elles vont toutes dans le même sens. Donc, on a pour l'instant peu de raisons de croire que c'est l'inverse qui se passera. Et là, cet article était intéressant parce que ça permettait de relativiser peut-être un peu et quelque part de se dire, oui, il y a des zones d'eau froide encore qui résistent. Mais il ne faut pas résister longtemps. Il faut être logique. Et du coup, ça tient encore à une espèce d'équilibre qui bascule. Si ces eaux froides disparaissent, c'est fini. On pourra faire un sauna permanent avec une montée des eaux effrayante. Serons-nous là encore, Carole, pour l'évoquer ?
Je ne pense pas, mais nos descendants,
pas tant que ça,
oui.
Les descendants, oui.
Tout à fait. Et justement, est-ce qu'on n'aurait pas un sujet sur la pollution de ces océans, avec cette problématique des plastiques? Parce que pareil, ça c'est sur le devant de la scène en ce moment, on commence à interdire les pailles.
Oui, on commence à interdire les pailles. Alors, je crois, j'ai pas eu le temps de... Je crois qu'à un moment, il y a un projet de loi qui a été un petit peu contrarié il y a quelques jours, je crois que c'était au début du mois de février, où ça a été reporté, ces interdictions de paille, parce qu'il y a une espèce de lobbying qui se met en place au niveau de lobbying de la paille. Et ça a été reporté d'une année, je crois, l'interdiction. Il y a quelque chose comme ça, j'ai écouté ça d'une façon assez récente. Tout ça pour dire que il y a d'un côté une urgence et une prise de conscience à avoir, puis de l'autre, tu as une réalité économique qui fait qu'il faut trouver une espèce d'équilibre entre les deux. Et en général, ça bascule très souvent sur la réalité économique. Je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Et effectivement, la pollution au niveau des plastiques, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Alors évidemment, des fois sur les réseaux sociaux, tu as des images choquantes d'animaux entourés, certains avec une espèce de vous savez, les petits rouleaux de plastique là, qui est autour des bouteilles, tout ça. Donc oui, pour essayer de faire prendre conscience, mais on reste encore sur des images violentes qui parlent de pollution à partir de bouteilles ou autres. Et ce qu'on ne prend pas conscience, c'est un petit peu la décomposition de tout ça qui fait qu'on aboutit à des microplastiques, c'est-à-dire des morceaux de plastique qui mesurent moins de 5 mm. Alors oui, ok, moins de 5 mm, c'est rien, quoi. Franchement, on ne va pas nous agacer avec ça. Eh bien, on se rend compte qu'on en trouve dans les cours d'eau et dans les océans, et ils constituent aujourd'hui une vraie préoccupation environnementale et sanitaire mondiale, d'autant que des chercheurs de l'Université de l'Illinois aux États-Unis révèlent la découverte donc de ces microplastiques dans un vaste réservoir naturel d'eau souterraine qui fournit 25% de l'eau potable dans le monde. Ces particules proviennent vraisemblablement des eaux usées et des eaux de ruissellement qui, des routes, des décharges, des zones agricoles vont s'infiltrer dans les sols jusqu'aux aquifères et la question de leur origine précise, elle reste entière. Les chercheurs de l'Université de l'Illinois ne s'expliquent pas, en effet, le fait que les concentrations mesurées soient comparables à celles précédemment établies pour des eaux de surface, mais ce qui est vraiment une réalité, c'est qu'ils ont pris 16 échantillons sur les 17 prélevés dans deux systèmes aquifères de l'Illinois qui contenaient des particules microplastiques. La concentration la plus élevée a été mesurée, notamment dans une région de Saint-Louis, 15,2 particules par litre. En clair, vous prenez une bouteille d'eau d'un litre, donc on est assez habitué, on voit un petit peu ce que ça représente, et à l'intérieur, vous avez 15 particules de quelques millimètres. Et vous vous dites, mais c'est de l'eau potable. Et en fait, non. Alors qu'au départ, c'est censé être de l'eau naturelle potable qui fournit justement de l'eau potable pour le monde. Et une concentration qui est difficile à juger pour l'instant à ce jour, parce qu'il reste encore des données à avoir, essayer de comprendre un petit peu plus. Mais il y a une chose qui est établie, le problème de la pollution des eaux au microplastique n'est pas prêt d'être résolu, même si nous arrêtons de jeter du plastique aujourd'hui. Admettons qu'on a une prise de conscience internationale et on ne jette plus de plastique. Eh bien, ces particules, elles sont celles qui existent et qui ont déjà été balancées, elles seront encore présentes dans notre environnement pour longtemps. Sur à peu près les 6 milliards de tonnes de déchets plastiques produits depuis les années 40. On a fait une estimation grossière, mais ça nous donne à peu près 6 milliards de tonnes, ce qui est énorme. Près de 80% seraient susceptibles de contaminer les eaux. Le fait que les matériaux plastiques soient considérés comme jetables, alors même qu'ils sont conçus pour durer éternellement, m'échappe. C'est ce qu'explique ce chercheur de l'Université de l'Illinois. Oui, effectivement, la prise de conscience, elle est aujourd'hui, mais on a 70 ans, oui, à peu près, voire 80 ans de retard par rapport aux premières productions de ces matériaux plastiques. Il y a une prise de conscience actuelle sur ces microplastiques, parce que là, ça ne touche pas les océans et on se dit, bon, c'est loin, et puis ça concerne des pingouins. Non, là, ça concerne aussi notre propre eau potable. Mmh. Et c'est assez effrayant parce que on s'en rend compte qu'aujourd'hui, c'est oui. assez nouveau, en fait, oui. cette prise de conscience sur ces microplastiques.
Oui, c'est récent.
C'est récent et ça veut dire qu'on n'en est qu'au début. C'est-à-dire oui. que quelque part, on n'est peut-être qu'au début de cette, j'allais dire, infection, c'est pas le mot, mais de cette pollution, pardon, on n'en est qu'à la phase
en
de
tout cas,
départ.
Pour l'éliminer, ça paraît quelque chose. La tâche semble énorme.
La tâche semble énorme parce que quelque part, logiquement, tu ne peux pas éliminer du plastique. Enfin, à l'état actuel des connaissances aujourd'hui, oui, je crois qu'on avait découvert une bactérie qui pouvait bouffer du plastique. Bon, enfin bon, on reste quand même dans un stade assez minime. Pour l'instant, tu n'as pas de solution. Enfin, je veux dire, on n'en entend pas parler.
Déjà,
donc,
en
le
tout
plastique,
cas,
il est là.
Arrêter d'en générer en plus. C'est déjà ça, en fait, la première solution.
Mais oui, mais Carole, tu veux boire ton milkshake à la paille. Le problème, il est là. C'est qu'il s'est rentré dans notre société de consommation.
Alors, il existe des pailles qui ne sont pas en plastique, justement. Il y en a qui se sont lancés dans ce créneau. Et sinon, en effet, tout simplement, on se rend compte que dans plein de cas de figure, on peut se passer d'une paille.
Mais bien sûr, pour les pailles, le problème, c'est que ça concerne
plein d'objets,
plein d'objets. Alors, on va commencer par les pailles et les cotons-tiges, il me semble, aussi à un moment, j'avais entendu parler de ça, c'est-à-dire que le tube en plastique des cotons-tiges va être remplacé par autre chose. Je crois que là aussi, il y avait un texte de loi là-dessus. Mais bon, ça fait combien d'années que le coton-tige a été produit et balancé comme ça dans la nature ? Voilà, on est face à un problème dont on se rend même pas compte de l'ampleur, en fait, de la tâche à réaliser. Et là, on découvre un peu la poussière qu'il y a sous le tapis, mais on a soulevé que le petit coin du tapis. On ne se rend pas compte de ce qu'il y a en dessous, en fait. J'aime bien quand on plombe l'ambiance comme ça. Cette émission est horrible, chers amis auditeurs. Je suis désolé.
C'était la deuxième facette du plombage d'ambiance, mais ouais.
Non, mais voilà, c'était des articles qui aussi nous font prendre conscience.
Oui.
Ça veut pas dire qu'on n'a pas conscience. Hein. Nous, les auditeurs, on sait très bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas.
On fait ce qu'on peut aussi à notre petit niveau.
On fait ce que l'on peut, mais ce qui est important de réaliser, c'est vraiment l'ampleur qu'on n'a même pas conscience de cette ampleur-là, en fait. On a quelques images, on a quelques infos, c'est l'arbre qui cache une forêt dévasté en fait. Là, bon, je vais essayer d'avoir une image un peu plus joyeuse et festive, et en fait non, je n'y arrive pas. Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit titre
avec
de Barcella,
oui.
Et puis on terminera cette émission avec quelques articles. Tu vas nous parler de quoi?
Des animaux.
Quelle surprise. À tout de suite sur l'antenne de Graphite.
À tout de suite.
Ma peau sur la tienne, au détour d'une étourderie. Ta bouche bohémienne sur ma bouche bohémienne, c'est l'amour, c'est le paradis. Dieu que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains douces dessine ton corps sur le mien. Dieu que je me sens bien, lové entre tes seins, quand l'encre de mes mains douces dessine mon corps sur le tien. Sous mes mains magiciennes, au velours
de miel. C'est le jour qui chante la nuit. Dès que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains pousse, dessine ton corps sur le mien. Dès que je me sens bien, l'ombre est entre tes seins, quand l'encre de mes mains pousse, dessine mon corps sur le tien. Ton corps sur le mien, mon corps sur le tien, ton corps sur le mien. Ma peau tout autour de toi, ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi, ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi, ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Dès que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains pousse, dessine ton corps sur le mien. Dès que je me sens bien, l'ombre est entre tes seins, quand l'encre de mes mains pousse, dessine mon corps sur le tien. Dès que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains pousse, dessine ton corps sur le mien. Dès que je me sens bien, l'ombre est entre tes seins, quand l'encre de mes mains pousse, dessine mon corps sur le tien. Ton corps sur le mien, mon corps sur le tien, ton corps sur le mien, mon corps sur le tien.
Graphite également sur www.graphite.net.
Et on vient d'écouter Barcella avec le titre Passe-Passe tiré de son album Soleil, sorti l'année dernière. C'est Carole qui a choisi la programmation de cette émission. C'est assez tendancieux et assez évocateur, mais c'était sympa, on va
c'était
dire.
C'était sympa, la mélodie, je trouve.
La mélodie était sympa. Vous écoutez Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Et Carole, évidemment, toujours dans cette émission.
Oui, j'aime bien parler des zoologies et des animaux. Et cette fois-ci, on va parler donc des macaques et des émotions positives qui, visiblement, seraient contagieuses chez eux. En fait, c'est en observant des congénères qui s'épouillent que le macaque de Barbarie, finalement, éprouverait plus d'émotions positives. Un phénomène qui jouerait dans la structure sociale de l'espèce. Alors, comme vous l'avez sûrement déjà observé, hein, être témoin pour nous d'une bonne action, ça peut nous réjouir. Tout comme, des fois, un fou rire peut être communicatif, hein, n'est-ce pas ? C'était déjà arrivé dans l'émission.
Jamais.
jamais. Alors, ce phénomène, hein, dit de contagion émotionnelle positive, est bien documenté, en l'occurrence, chez l'être humain. Mais on peut se demander ce qu'il en est chez les autres espèces. Et pour répondre donc à cette question, Juliette Berthier et Stuart Sample de l'université de Roehampton à Londres ont observé pendant plus de 2 mois, eh bien 20 macaques de Barbarie dans la réserve du domaine de Trentham au Royaume-Uni. Alors en fait, ils se sont intéressés plus précisément à une interaction sociale très répandue chez les mammifères et les oiseaux. L'épouillage. Oui, hein, j'imagine que vous avez vu des dizaines de vidéos ou de reportages animaliers qui en parlent. Ce sont les séances de toilettage, donc aux vertus apaisantes, qui se produisent au sein du groupe et ont donc de nombreux témoins potentiels, puisque les autres congénères du groupe assistent à ces scènes. Donc c'est l'article qui a été publié donc sur le site Pour la Science qui nous apprend un peu plus avec donc la chercheuse Juliette Berthier qui nous dit qu'en fait nous sommes demandés si l'épouillage avait un impact sur le comportement ou l'état émotionnel d'un singe observateur. Donc, pour évaluer cet état émotionnel des macaques, les deux chercheurs ont mesuré la fréquence de manifestations d'anxiété comme le grattement, le bâillement et l'auto-épouillage. Nous avons observé cette fréquence lorsque le macaque, donc justement, observait deux congénères qui s'épouillaient et lorsqu'il ne voyait aucune interaction d'épouillage, donc nous précise Juliette Berthier. C'est-à-dire qu'on regarde les résultats au niveau de l'observateur. Hein. On a bien compris le paradigme expérimental. En comparant ces deux mesures chez un même individu, les scientifiques ont alors démontré qu'observer une séance d'épouillage réduisait significativement l'anxiété du spectateur. Donc ils ont, on imagine, quantifiait un nombre de comportements d'anxiété qui diminuait, enfin qui était moins important. Les macaques de Barbarie donc semblent sensibles à la contagion d'émotions positives, et Juliette Berthier conclut en disant « Épouiller un congénère est d'autant plus intéressant que cela permet de renforcer les liens sociaux avec celui-ci, mais aussi d'apaiser les membres du groupe qui observent l'interaction. » Donc c'est vrai que finalement, quand on a ce type de comportement qui se produit à différents endroits du groupe, on observe en général un apaisement de manière générale. Mmh. Voilà, donc ça peut, non mais ça peut être, il faut savoir, c'est intéressant, ça peut être utilisé justement pour certains, par certains membres, pour obtenir des effets sur le groupe. Parce qu'on sait qu'il y a certaines hiérarchies au sein des groupes, etc. Donc c'est des choses qui sont utilisées. Mais l'étude, elle va encore plus loin en fait, puisque les chercheurs se sont intéressés aux changements de comportement chez les spectateurs. À ce moment-là, ils ont considéré deux types d'interactions sociales. Les interactions dites positives, donc là, on nous précise un petit peu ce que c'est, étreintes, caresses, propositions de toilettage, et les interactions négatives, comme les morsures, les coups, les cris ou les expressions faciales agressives. Les deux biologistes en ont conclu qu'observer les séances de toilettage poussait les observateurs à se comporter de façon plus amicale avec les autres membres du groupe. Donc c'est pas juste une diminution de l'observation des comportements d'anxiété, c'est aussi une modification du comportement par la suite, hein. Par exemple, un singe ayant été témoin d'une séance dépouillage est plus enclin et plus prompt à proposer à son tour un toilettage à un de ses congénères, préférant être le toiletteur plutôt que le toiletté. C'est dommage, je ne crois pas que ça marche comme ça avec les massages chez l'espèce humaine. Mais
je ne comprends absolument pas cette analogie.
Mais attention, de façon surprenante, l'observation de toilettage ne diminue pourtant pas les comportements agressifs des spectateurs vis-à-vis des autres singes. Les comportements amicaux et agressifs sont deux classes de comportements qui font probablement appel à des mécanismes cognitifs indépendants et ne sont pas forcément antagonistes, nous rappellent les deux chercheurs. Donc leurs travaux prouvent que la contagion émotionnelle positive, elle existe chez d'autres espèces et qu'elle permet de renforcer la cohésion sociale au sein d'un groupe, donc chez d'autres espèces que l'homme, mais aussi sûrement chez d'autres espèces de singes. Donc le macaque de Barbarie, c'est une espèce qui est connue pour être tolérante et pacifiste. La sensibilité à la contagion d'émotions ou de comportements positifs pourrait donc en être une des raisons, c'est-à-dire que finalement, étant plus sensible à cette contagion d'émotions positives, finalement, ce serait de toute façon une espèce moins agressive. Ce qui fait qu'en fait, on peut s'attendre à ce que des espèces moins tolérantes, comme par exemple les macaques japonais ou les macaques rhésus, soient moins sensibles à ce phénomène. Attention, c'est une hypothèse. Et donc, pour la chercheuse, il y a fort à parier que la contagion émotionnelle de ce type joue un rôle non négligeable dans la structure sociale d'une espèce. Donc il y a encore des phénomènes à creuser, des découvertes déjà très très intéressantes.
Évidemment, ça c'est intéressant. Et c'est toujours, c'était l'éthologue.
Et j'ai réussi à ne pas rire.
Mais pourquoi tu voulais la rire contagion sur un sujet
du...
comme
ça ? Je ne sais pas. En réponse justement, due à la contagion d'un fou rire, d'un départ d'un fou rire en face
mais
de moi.
Il n'y a jamais de fou rire dans cette émission, c'est pour ça. Je sais toujours contrôler mes émotions, tu le sais très bien Carole, allons franchement. Eh bien, on va terminer peut-être cette émission avec ce dernier article qui va être un petit peu un résumé quelque part de ce que l'on a vu dans cette émission. On a parlé des animaux d'à côté, on a parlé aussi des plastiques de l'autre. Eh bien, je vous propose pour ce dernier article de parler des canards en plastique. Il en existe pour tous les goûts. Hein. Ils flottent dans nos baignoires pour le plus grand plaisir de nos petits, parfois même aussi pour celui des grands. Oui, 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 parce que quand on parle de canards en plastique, bien sûr, les adultes pensent généralement à autre chose. Ce n'est pas la peine de nier, Carole. Tu sais très bien ce dont je parle. Depuis quelques années, le canard en plastique de nos enfants s'est transformé en espèce de sextoy ultra tendance. Il suffit juste d'avoir une baignoire, c'est discret, c'est amusant. C'est-à-dire que quand on est dans son bain, on ne fait plus de grosses bulles, on ne joue plus au sous-marin et on est toujours aussi bien. Et est-ce qu'on en est vraiment sûr ? Eh bien, la question a été posée par des chercheurs de l'Institut de recherche sur l'eau à Ewag en Suisse. Ils ont travaillé avec l'École polytechnique fédérale de Zurich en Suisse et en plus l'Université de l'Illinois aux États-Unis. C'est sérieux,
oui, c'est
madame.
C'est sérieux, tout à fait.
Et ils ont eu un doute. Un doute parce que, eh bien, ils ont eu un doute sur le plastique, justement, qui constitue ces fameux canards en plastique, parce qu'ils se demandaient s'ils ne risquaient pas d'abriter quelques bactéries et autres champignons. Alors, Pendant plusieurs semaines, ils ont plongé des canards en plastique dans de l'eau de bain, bien évidemment, qui contient des résidus de savon, de sueur, des cheveux ou autres. Et de l'autre côté, ils ont fait une expérience avec un témoin qui est de plonger les canards dans de l'eau propre. Résultat, 80% des canards qui avaient trempé dans des eaux troubles et douteuses ont développé en leur cœur des germes potentiellement pathogènes, des légionelles, des bactéries résistantes.
Ah, super.
Une conclusion plutôt alarmante, oui, lorsque l'on considère l'usage que font généralement les plus petits de ce genre d'objet. Parce que le plus drôle avec ces canards, c'est en fait, quand elle n'a pas plus de 4 ans, toi, c'est de faire gicler de l'eau en appuyant sur le ventre. C'est tellement génial. C'est tellement rigolo. Et c'est malheureusement à ce moment-là que peuvent être libérées ces fameuses bactéries. Juste de quoi renforcer les défenses immunitaires de nos bambins, c'est ce que disent certains, mais aussi de quoi irriter les yeux, les oreilles, de provoquer des infections gastro-intestinales, c'est ce qu'affirment les experts. L'occasion pour eux d'appeler à durcir la réglementation sur les polymères qui sont utilisés pour la fabrication de ces canards en plastique et tous les autres jouets qui sont en plastique et qui sont destinés à flotter dans nos baignoires. Le principal responsable du phénomène serait apparemment le carbone organique qui est libéré par les polymères qui constituent ces jouets. Donc voilà, ce n'est pas des beaux, ce sont des vilains petits canards de nos baignoires. Faites très attention, évidemment, quoi que vous fassiez avec. C'est la fin de cette émission, Carole. Je n'ai pas de conclusion de fin. On se retrouve pas la semaine prochaine, peut-être pas, on n'en sait rien, mais dans 15 jours, tout au moins, c'est certain.
Oui.
Tu reviens nous accompagner dans cette émission
début mars,
avec plein d'autres thématiques, évidemment, dans cette émission Biotine, l'émission de science, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. As-tu une baignoire chez toi, Carole? C'est ce que tous les auditeurs se posent comme question.
Eh bien non. Mais je vois que ça m'évite pas mal de tracas.
C'est effectivement, tu as bien raison, j'en suis rassuré. On se retrouve début mars, Carole. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain à 12h pour une prochaine émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net en direct ou en différé sur le site internet graphite.net et puis ceux qui nous écoutent lors de la rediffusion le mardi matin à 10h. Merci Carole pour m'avoir accompagné et on se retrouve bientôt. Bonne journée à tous, au revoir.